L'évangile d'aujourd'hui était celui de la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux. Bien que nous n'ayons pas parlé la semaine dernière, c'était le début de la réorientation de nos vies vers la préparation, dans la préparation du carême en vue de la résurrection, de la purification et de la résurrection pascale. Dimanche dernier, l'évangile du pharisien et du publicain nous invitait à fuir l'hypocrisie et à prendre conscience que, bien que la cèse recommandée pendant le carême, le jeûne, la veille et la prière soit une nécessité, ce n'est cependant pas cela qui nous sauve. Notre salut ne vient pas de nos pratiques, mais elle vient d'un don gratuit de Dieu en réponse ou en synergie avec la conversion de notre cœur. Donc, avec notre humilité, parce que nous ne sommes pas sauvés par d'une manière humaine, mais par l'action divine. Si vous vouliez en savoir plus, il y avait qu'à en parler dimanche dernier. Ah, écoutez, vous avez combien 40 homélies enregistrées sur ce sujet-là. Puisque tous les ans, on en fait une. Bref, aujourd'hui, le fils prodigue. J'ai trop de télescope dans ma tête pour vous le présenter d'une manière assez systématique et suffisamment claire. Parce que je voudrais joindre l'épître que nous avons entendue à la parabole que nous avons aussi entendue juste après. Après nous avoir montré que c'était l'humilité qui nous sauvait, enfin, qui était notre participation à notre salut, plus exactement. Aujourd'hui, saint Paul nous montre que dans la vie, il faut faire des choix. C'est-à-dire que notre vie en elle-même est un choix. Nous sommes sur terre, nous sommes créés, et nous sommes sur terre pour un laps de temps différent suivant les personnes. Mais ce temps-là nous est échu de manière à ce que nous apprenions, souvent lentement, à faire le bon choix. Et quel est ce choix? C'est un choix fondamental. Et vous comprendrez pourquoi cet épître-là est lu en préparation de la fête qui vient, à laquelle on se prépare, la résurrection finale à Pâques. Le choix, c'est un choix entre ce monde et l'autre monde, entre le monde historique, matériel, psychologique, scientifique, qu'on appelle en un seul mot le monde déchu, parce que ce n'est pas celui-là que Dieu avait créé. Donc c'est un choix entre cette forme de monde, cette forme de vie dans laquelle nous sommes tous immergés de par notre naissance, et l'autre vie, la vie avec un grand V, la vie par excellence, qui est la vie divine dans laquelle Dieu nous avait créés et à laquelle il nous appelle encore aujourd'hui. Et quand saint Paul dit dans l'épître aux Corinthiens que nous avons entendu, frère, tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable, c'est cela qui est en jeu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Le tout ne montre pas simplement, dans l'optique dans laquelle nous sommes, de cette préparation à Pâques, de cette assaise de préparatoire, c'est pas simplement les nourritures, c'est pas simplement en rapport avec l'assaise, mais c'est par rapport au monde dans lequel nous sommes. Tout nous est permis, mais tout n'est pas profitable. Mais je dois ajouter tout de suite que le « tout m'est pas permis » n'est pas... Je ne corrige pas Saint Paul, je corrige simplement la traduction. Le « tout m'est permis » n'est pas une question de permission. Ça veut dire, plus exactement, il faut dire « tout est à ma disposition ». Mais tout n'est pas profitable. Tout nous le servit. On peut faire nos choix. On a tout ce qui nous entoure, on peut le choisir. Puisque c'est là. Mais tout n'est pas profitable. Tout n'est pas utile. Et ça peut même être mauvais. Ça peut même nous engluer dans la pâte de cette vie et nous empêcher de nous en dégager pour aller dans l'autre vie qu'on appelle la vie éternelle, dans la vie divine. Donc tout est à notre disposition, mais tout n'est pas profitable. Et ceci, s'appliquant à l'orientation, au sens de notre vie, et pas simplement dans le renoncement ascétique à certaines choses de ce monde, ceci implique le choix fondamental dont je commençais à vous parler. La vie de ce monde est à notre disposition, elle nous est permise, mais rester dans ce niveau de vie ne nous est pas profitable parce que ça ne nous apporte pas la vraie vie, le royaume des cieux. Saint Paul dit: tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai pas dominer je ne me laisserai dominer par rien. C'est-à-dire que dans notre choix, nous ne sommes pas des esclaves. Tout est à notre disposition, mais c'est pas ces choses qui sont à notre disposition qui doivent régler l'orientation de notre vie. Donc, c'est à nous de le dominer, à nous de prendre le pas sur ces choses-là et de les organiser pour de manière à nous orienter vers le royaume, c'est-à-dire le niveau de vie auquel Dieu nous appelle. Les aliments, et entendez les aliments, pas simplement le pain, le saucisson et la mortadelle, mais entendez les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont pour le ventre, c'est-à-dire elles sont pour notre chair au sens de corporel, physique ou intellectuel, ce qui est le même niveau, si vous voulez. C'est pour le ventre. Et le ventre est fait pour ça. Nous sommes faits pour nous nourrir des aliments de ce monde dont nous faisons esclaves et la volontaire. Mais Saint Paul nous prévient que Dieu abolira ceci et celui-là, c'est-à-dire le ventre et les aliments. Le corps n'est pas pour la fornication. N'entendez pas par fornication uniquement la fornication physico-affective. La fornication dans l'esprit de Saint Paul n'est pas simplement les fautes sexuelles. La fornication, c'est la jouissance de le monde dans ce qu'il a de bas et de matériel. Faut se comprendre aussi. Quand je dis la fornication, c'est la jouissance, il est normal, il est humain d'user aussi de ces choses. qui sont à notre disposition. Mais comme je vous disais préalablement, en les dominant, c'est-à-dire en les utilisant à bon escient. Est à notre disposition de faire des bons repas, par exemple. C'est qu'un exemple, hein, ça ne se limite pas à ça. C'est pour toute chose pareille. C'est à notre disposition. On peut l'utiliser. Il ne s'agit pas d'être simplement comme Sainte Marie l'Égyptienne, de se nourrir pendant 40 ans, simplement trois lentilles. Vous avouerez qu'en moyenne, ça ne fait quand même pas beaucoup. On peut manger un petit peu plus. Mais cette nourriture, cette abondance qui nous est permise, pour reprendre le terme de saint Paul, elle est faite non pas pour nous régaler soi-même, mais pour régaler les autres, pour créer une communion entre les personnes, une communion festive évidemment. Donc c'est une consécration et pas une jouissance. Il en va parler de tout ainsi. Par exemple, il est normal d'aimer les belles choses, les choses artistiques, si vous voulez. Mais entre les aimer et vivre avec, ou les prendre pour les collectionner, pour en faire du matériel, pour avoir la joie uniquement de les poser, par avarice en quelque sorte, ça, ce n'est plus bon. Si vous prenez des icônes, il n'y a pas plus sain que les icônes, hein, au point de vue art. Mais si on prend les icônes comme œuvres d'art et qu'on les enferme dans des coffres forts, je peux parler de ça parce que je suis sûr qu'à peu près parmi vous, il n'y en a pas beaucoup qui doivent le faire. Mais si on enferme ça dans des coffres forts de manière à ce que ça, d'année en année, le prix en augmente pour le vendre enfin quand le prix sera très élevé, c'est une aberration par rapport à notre idéal, par rapport au but même de l'icône, qui est de nous faire entrer, qui est une fenêtre, qui sont une fenêtre ouverte sur le royaume des cieux, mais une fenêtre ouverte sur le royaume des cieux mise dans un coffre-fort. Avouez qu'à ce moment-là, on ne voit plus beaucoup le royaume des cieux à travers le blindage du coffre. Et tout est à l'avenant. Je prends que ces exemples-là, mais tout est à l'avenant. Et un aspect du carême qui est d'apprendre pas simplement à nous dépouiller en nous privant, mais qui consiste à affiner notre choix intérieur, de manière à prendre ce qui est bassement matériel. Je ne le méprise pas. Tout dans le monde n'est pas bassesse. Ce qui est bassesse, c'est ce qu'on en fait, mais pas en lui-même. Bref, si on ne fait que bénéficier, que choisir la vie selon dans sa bassesse, à ce moment-là, on perd le but. On perd ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire la communion, l'union à Dieu, c'est-à-dire, dans un autre vocabulaire, l'accession au royaume des cieux, ou appelez ça au paradis. Il y a 36 termes pour appeler cela, mais qui est toujours la même réalité. Donc notre corps n'est pas fait pour la fornication, notre vie n'est pas faite pour nous arrêter définitivement à ce monde. Et tout l'effort de notre carême doit tendre à prendre conscience de cette propension que nous avons à nous enfermer dans les choses de ce monde et d'oublier, ou de mal choisir, d'oublier l'autre monde pour lequel nous sommes faits. Et comme je vous dis souvent, cet autre monde n'est pas un monde hypothétique à venir, si on s'est à peu près bien tenu, si on n'a pas fait trop de bêtises sur Terre, mais c'est un monde dont nous avons déjà en ce moment même une connaissance, une expérience partielle, certes, mais réelle cependant. C'est ce que vous avez vécu tout à l'heure pendant la liturgie, c'est ce que vous vivez à chaque prière, c'est ce que vous vivez à chaque respiration, à chaque pensée qui vous tourne vers Dieu. C'est ça notre expérience, de nous vivons au-dessus de notre condition matérielle, nous vivons déjà aujourd'hui dans cette condition du royaume des cieux. J'ai promis qu'un jour je vous parlerai de ce qu'est le corps du Christ. Pas aujourd'hui encore. Mais saint Paul nous dit encore, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? Ceci est à prendre au sens strict du terme. Certes, vos mains ne sont pas les mains matérielles faites de chair, de nerfs et de sang et d'os du Christ. Mais le Christ, étant Dieu, ayant pris toute notre nature, nous sommes parce que saint Paul prend l'image d'un corps physique, nous sommes les membres de ce corps, dont lui est la tête, et nous sommes les membres. Donc, c'est les membres que nous sommes du corps du Christ, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Ajoute saint Paul, est-ce que je prendrais ces membres pour en faire les membres d'une prostituée? Toujours la prostitution dans le sens que nous disions tout à l'heure, pas simplement avec des dames de petite vertu. Mais non, nous ayant étant notre petite vertu de nous attacher à ce monde comme ça. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps? Ceci est vrai évidemment dans la prostitution, comme on peut l'appeler humaine, celle dont je parlais juste avant, mais c'est vrai aussi dans notre manière de vivre, dans l'orientation de notre vie, donc dans l'orientation de notre cœur, dans le mouvement le plus profond de nous-mêmes, là où se joue véritablement notre liberté de choisir là-haut ou ici-bas. Que maintenant, dans notre réalisation, on ne fasse pas toujours ce qui serait parfait, ça, c'est la conséquence même de notre condition humaine déchue. Rappelez-vous ce que saint Paul nous dit, ou dit, confesse en notre nom à tous, je ne fais pas le bien que j'aime, mais je fais le mal que je hais. C'est-à-dire que je n'aime pas, que je refuserai. Mais notre liberté ne se joue pas à ce niveau-là. Notre liberté est plus profonde plus profondément que ça. Fuyez la fornication, fuyez l'attachement à ce monde. Le sommet de cette fuite de la fornication, c'est l'exemple des martyrs qui ont renoncé joyeusement à leur vie même par amour pour le Christ. Ils ont choisi l'autre royaume. Mais il y a une autre forme de martyr, c'est le martyr volontaire, autrement dit l'ascèse, qui est indispensable et valable pour tous les hommes et toutes les femmes, pour tous les hommes, que ce soit dans une vie dans le monde, comme on dit, ou une vie hors du monde, c'est-à-dire dans la vie monastique. Il n'y a pas besoin d'être stylite et d'attendre d'avoir des ulcères avec des petits vers qui se mettent dans les jambes, parce que coincé sur sa colonne à 20 mètres de haut, il n'a pas d'exercice et les varices éclatent. Il n'y a pas besoin d'être stylite pour renoncer au monde et pour avoir cette forme de martyr. Le martyr, vous tous, vous pouvez l'avoir. Et il y a deux martyrs complémentaires. Il y a le martyr volontaire, celui qui consiste à aujourd'hui, non, je ne vais pas manger de viande. Et la semaine prochaine, je ne vais pas manger de fromage, etc. Ça, c'est l'ascèse est une forme de martyr. Il y a une autre forme de martyr, qui est le martyr involontaire, celui qui nous vient des circonstances, des tentations, et qui, quelquefois, peut être une suggestion diabolique, c'est-à-dire le diable peut nous mettre dans des conditions défavorables. Les maladies, par exemple, la plupart du temps, les maladies ne sont pas la volonté de Dieu. La mort est contraire à la volonté de Dieu. Mais c'est le diable qui suscite ce déséquilibre-là. Et avec l'œuvre du diable, il y a notre participation. Si nous étions tous des saints, nous n'aurions pas de maladie et nous n'aurions pas de mort. Quand je dis tous, c'est depuis le père Adam jusqu'au dernier. C'est pas uniquement individuel. Cette destinée n'est pas une obligation. Et s'il y a des chutes, l'Esprit Saint est là pour nous ramener, pour nous solliciter notre retour et revenir enfin vers Dieu. Et je fais le rapport maintenant avec l'évangile que nous avons entendu du fils prodigue. Le fils prodigue, qu'est-ce qui est important? Il est parti, il a péché, il a oublié son père, il s'est détourné de la voie, il a fait le mauvais choix. Il a choisi la fornication dans tous les sens du terme, c'est-à-dire il a choisi la vie de ce monde, il a voulu être maître de son destin. Et vulgairement parlant, on pourrait dire qu'il s'est planté, de belle manière. Et la conséquence de ça, qui n'est pas une conséquence voulue par Dieu, c'est pas une punition, mais c'est la tentation, le tentateur qui l'a amené à ça, fait que il se trouve à avoir faim. Et cette faim-là lui fait découvrir, pas encore le fond, mais découvrir quelque chose dans son cœur. Il commence à regretter le temps où il était en paix chez son père, où il avait de quoi manger, alors que là, il n'a rien, il voudrait manger les caroubes. Des caroubes, c'est des petits fruits d'arbres sauvages qu'on trouve dans les régions méditerranéennes, et qui c'est l'équivalent des glands chez nous, si vous voulez, que l'on donne à manger aux porcs. Il aurait bien voulu manger ça. C'est-à-dire, il manquait de tout, ça c'est symbolique, mais il manquait de tout. Et ça lui permet, alors qu'il avait dépensé sa vie, comme nous le savons, dans la prostitution, au sens large du terme, ça lui permet de comparer avec... Tant qu'il était dans cette prostitution, il n'avait pas le loisir, il n'avait pas le temps, il n'avait pas le courage de se mettre en face de lui, et il niait en quelque sorte sa déchéance. Mais grâce à cette souffrance qui en résulte, il en est amené à comparer la vie qu'il avait avant et la vie qu'ont encore les serviteurs de son père et qui étaient les siens aussi, d'une certaine béatitude, d'un certain bonheur. À force de souffrir et à force de pleurer, un peu égoïstement, sur la peine dans laquelle il est, par intérêt personnel, c'est pas encore d'une noblesse extraordinaire, il se retourne, il décide enfin de retourner vers son père, et là vous savez ce qui arrive, confessant sa faute, son père ne prend même pas ne lui affirme même pas son amour et lui montre que son amour n'a pas été altéré par ça, et aussitôt il lui redonne la robe de fête, l'anneau filial, etc. Ceci est à l'entrée de du carême. C'est-à-dire que la robe nuptiale, la robe festive qui sera donnée au fils prodigue dans la parabole, c'est la robe que de nous revêt Dieu par notre salut et notre résurrection, par notre résurrection, notre salut, pardon. Donc quand on revient vers Dieu, Dieu nous donne ça. C'est-à-dire, son pardon nous est acquis si on lui demande, si on se rapproche de lui. Et notre carême consiste d'une part à en avoir marre de manger les fruits de ce monde, alors qu'on pourrait goûter d'autres fruits, d'autres nourritures, si nous étions dans la maison de notre Père. Cette lassitude de mauvaise nourriture nous fait décider, et c'est ça le but, de décider non pas simplement à confesser, non pas simplement à reconnaître, parce que là il y a un danger. Dans notre pratique chrétienne, notamment de la confession intérieure, à la plus forte raison, confession sacramentelle, souvent nous nous contentons de reconnaître que nous sommes pécheurs, de reconnaître que nous faisons nos mauvais choix, de reconnaître que nous nous écartons de Dieu. Mais si c'est simplement une reconnaissance, ça ne sert strictement à rien. La confession n'est pas seulement un aveu. La vraie confession, c'est après l'aveu de dire maintenant ça suffit, je me retourne vers le bon côté. Il y a cette décision à prendre et le jugement de Dieu, est conditionné, et pas conditionné, dépend de ce choix fondamental. Vers où maintenant vais-je me tourner ? Ou vers Dieu, ou je reste avec mes cochons en espérant manger quelques caroubes par-ci, par-là. Ça, c'est toute l'orientation du carême. Et rappelez-vous que le carême n'est qu'une période d'exercice, comme le dit le mot 16, momentané, qui dure que 50 jours. Mais ce n'est que le symbole, ou plus exactement la pratique plus intense d'une certaine conversion qui dure un moment seulement, mais qui doit être l'image de notre vie totale, complète. C'est toute notre vie qui doit être un carême. C'est toute notre vie qui doit être un apprentissage de la souffrance de notre éloignement de Dieu pour nous retrouver avec le désir de revenir vers le Père et d'attendre de lui rien d'autre que lui exprimer notre regret d'être tombé si bas. Et lisez tous les textes liturgiques que nous entendons tout au long de l'année, mais notamment pendant le carême, c'est toujours ça, y compris dans la prière dite de Jésus, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » C'est prendre conscience de notre état, souffrir de voir que cet état-là n'est pas celui auquel on est destiné, celui que l'on voudrait, mais on se tourne vers Dieu sans lui demander ceci ou cela, parce que dans l'état où nous sommes, nous ne pouvons rien exiger de lui, mais avec une totale confiance, sachant que ce à quoi il nous destine, il nous l'offre dans la mesure où on s'attache à lui, on revient à lui. C'est ce que nous expérimenterons encore momentanément par la fête pascale vers laquelle nous nous acheminons, et qui sera encore, pas simplement le symbole, mais qui sera l'expression limitée dans le temps et dans l'intensité de ce que nous connaîtrons lors du grand passage, lors de la grande Pâque, le jour de notre mort et de notre résurrection. Amen.